sujet de discussion.
Amis auditeurs, soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Nous sommes à sujet de discussion. Le 16 juin de chaque année, l'Afrique célèbre ses enfants. La journée de l'enfant africain institue en mémoire des jeunes de Soweto massacrés en 1976 pour avoir réclamé une éducation de qualité est aussi un moment de réflexion sur la situation des enfants d'aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, malgré des efforts notables, de nombreux enfants restent confrontés à la pauvreté, au travail précoce, à l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé. Face à cette réalité, des ONG œuvrent chaque jour pour changer les choses. Quelles actions mènent-elles? Quels défis rencontrent-elles? Et surtout, quels espoirs portent-elles pour les générations futures? Aujourd'hui, dans sujet de discussion, gros plan sur le rôle de ces organisations engagées en faveur des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, je suis en compagnie de Ange Semi, chargé de projet à l'ONG Le Berceau de l'Enfance. Bonjour à vous.
Bonjour madame.
À ses côtés, nous avons Koué Emmanuel, chargé de communication à l'ONG Kavo Ekiva. Bonjour.
Bonjour, madame.
Et puis nous avons aussi Kone Issa, coordonnateur du réseau EDR, Entendez Enfants de la Rue. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes aussi éducateur au foyer Akwaba.
Effectivement.
Ok, soyez le bienvenu à vous aussi.
Merci.
Alors, on va commencer par un petit tour de table pour en savoir un peu plus sur vos organisations. On débute avec Ange Semi de l'ONG Le Berceau de l'Enfance. Parlez-nous un peu de cette ONG.
Il faut dire que l'ONG Le Berceau de l'Enfance est une ONG franco-ivoirienne qui a pour but de créer des structures de protection d'enfance à Abidjan et en France. Et depuis janvier 2024, nous avons ouvert notre première structure de protection d'enfance à la Riviera Palmeraie où nous accueillons les jeunes de 12 à 21 ans. C'est un espace de seconde chance sociale, éducative et humanitaire également. Et au sein de cette maison, nous offrons plusieurs services tels que un accompagnement individuel fait par une éducatrice spécialisée. Aussi, tout ce qui est alphabétisation adaptée selon le niveau des jeunes. Mmh. Il y a aussi des activités culturelles et sportives que nous menons au sein de la maison. Et aussi, nous sommes en train d'entamer une formation qualifiante avec les entreprises pour les jeunes qui voudraient apprendre un métier.
D'accord, on peut dire que c'est une ONG qui offre une seconde chance aux enfants.
C'est cela.
D'accord. Et puis donc, à vos côtés, on est avec Koué Emmanuel, qui lui aussi va nous parler de l'ONG Kavo Ekiva. Qu'est-ce que ça signifie ce nom?
L'ONG Kavo Ekiva signifie en langue gourou, unissons-nous.
D'accord.
Voilà. Elle a été fondée en 2003 par M. Iribitra Clément et l'ONG Kavo Ekiva a pour mission de vrai pour la protection des jeunes filles et des enfants victimes de traite, d'exploitation sexuelle et tout, etc.
Mmh, d'accord. Voilà qui est bien noté. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux ONG font partie du réseau EDR. Et nous avons donc avec nous Kone Issa pour nous parler de ces réseaux. Allez-y.
Merci madame. Merci vraiment de nous recevoir sur votre radio. C'est tout un plaisir pour nous. Alors, vous parlez du réseau EDR, le réseau Enfants de la Rue, est un groupe thématique du Forum des ONG. Le Forum des ONG, c'est la coalition ivoirienne des structures qui travaillent dans le cadre de la protection des enfants. Et au sein du Forum des ONG, il y a des groupes thématiques, dont le réseau Enfants de la Rue, qui regroupe en son sein des établissements de protection de remplacement, c'est-à-dire des structures de centres d'accueil, qui accueille les enfants en situation de rue, en situation difficile. Nous nous sommes dit qu'au niveau du réseau, plus vous vous mettez ensemble, vous fédérez vos forces, plus vous pouvez aller loin. Alors, puisque tout comme Kavo Ekiva, berceau de l'enfance, nous avons d'autres membres qui sont, d'autres structures qui sont membres du réseau Enfants de la Rue. Et qu'est-ce que nous faisons au sein de ce groupe thématique? Puisque tous travaillons sur la thématique des enfants de la rue. Alors, nous nous sommes dit que si nous nous mettons ensemble, nous unissons nos forces, on peut approcher, on peut aider les enfants. Et donc, nous avons initié comme activité, nous avons des réunions mensuelles. De même, nous menons ce que nous appelons les maraudes, les actions de rue. Ça consiste à sortir de jour comme de nuit, aller au contact des enfants et puis voir quelle est la structure qui peut mieux accueillir tel ou tel enfant. De même, comme activité au niveau du réseau, il y a le renforcement des capacités des intervenants. Également, nous menons des activités de plaidoyer, sensibilisation, comme l'émission aujourd'hui où nous sommes invités, où nous, ça rentre dans le cadre des activités du réseau Enfants de la Rue. Parce que il faut s'adresser aux populations, il faut s'adresser aux familles. Si nous sommes ensemble, qu'on s'adresse aux populations, c'est sûr que cela peut passer. Donc voilà, madame, essentiellement, présenter le réseau Enfants de la Rue.
Et vous êtes aussi éducateur au foyer Akwaba.
Effectivement.
Foyer Akwaba qui est différent de Akwaba Mousso.
Oui, effectivement. Oui. C'est deux Akwaba. Akwaba Mousso, ça s'adresse pratiquement à la jeune féminine, tout ce qui est féminin. Et Akwaba, foyer Akwaba, c'est le foyer Akwaba, foyer de la salle. C'est un centre éducatif qui est situé à Bobo. Nous existons depuis 99 et nous travaillons tout comme nos structures sœurs dans le cadre de l'accueil et de l'hébergement des enfants en situation de rue. Alors, la durée de séjour d'un enfant, c'est 4 ans. Donc, quand l'enfant arrive, nous avons la prise en charge holistique. C'est tout ce qui est alimentaire, sanitaire, assistance juridique, médiation familiale. Et également, au niveau du foyer Akwaba, nous travaillons avec la communauté. Mmh. Donc, nous avons au sein du foyer une école que nous appelons l'école de base, qui est l'école de rattrapage. Nous donnons la chance aux filles et aux garçons qui n'ont pas pu aller à l'école normale, conventionnelle, par manque d'incidents de naissance ou l'âge est assez élevé. Alors chez nous, il y a cette possibilité-là que les enfants viennent pour apprendre à lire et à écrire. Mmh. De même, nous faisons l'alphabétisation avec les mamans du quartier. Nous avons la réinsertion par le travail. Parce que c'est vrai que nous mettons l'accent sur la scolarisation des enfants, mais pour ceux qui ont déjà dépassé l'âge d'aller à l'école, il y a cette orientation professionnelle. Alors nous sommes en contact avec des maîtres artisans formateurs, mm-hmm. c'est-à-dire des ateliers de couture, et au choix des enfants, nous les orientons. Voilà.
D'accord. Pour rappel, nous parlons aujourd'hui de la journée de l'enfant africain, principalement de la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, en quelques mots déjà, comment est-ce que vous, au niveau de vos différentes ONG, vous pouvez décrire la situation actuelle dans le pays? Est-ce qu'on peut dire que les enfants sont en danger en Côte d'Ivoire ou bien ça va? Alors, on va commencer avec Onchimi.
Nous, concernant l'ONG Le Berceau de l'Enfance, lors de nos différentes activités sur le terrain, nous avons fait plusieurs constats concernant les enfants de la rue. Faut dire que sans chiffres officiels clairs, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue, notamment à Abidjan. Et ces enfants-là survivent comme ils peuvent à travers les petits métiers tels que la vente des mouchoirs, laver les pare-brises des véhicules. Et aussi, ça donne aussi à la mendicité. Et tout ça fait que ces enfants-là sont beaucoup exposés à tout ce qui est violence, tout ce qui est exploitation, l'abandon scolaire et aussi à une précarité extrême aussi. Donc, nous pouvons dire que les jeunes qui ont abandonné l'école et qui se retrouvent actuellement analphabètes, il y a très peu d'initiatives qui existent pour ces jeunes-là. Donc, c'est les différents constats que nous avons faits sur le terrain durant nos différentes activités en Côte d'Ivoire.
Mmh. Emmanuel, vous, quel est le constat que vous avez fait déjà au cours de vos différentes activités?
Concernant l'ONG Kabokiva, on a constaté qu'il y a une nette amélioration au niveau de l'État, disons. Mmh. Et voilà, il y a des améliorations au niveau des lois qui ont été mises en place et puis des institutions qui ont été créées par l'État, c'est déjà bien. Il faut souligner aussi le fait que l'État aussi doit accompagner aussi les ONG dans tout ça. Comme je l'ai dit aussi, il y a des lois qui ont été mises en place, des institutions comme la DPE. Avant, on n'avait pas par exemple la DPE. Mmh.
La DPE qui signifie quoi?
Direction de la protection de l'enfance.
Ok.
Et voilà, qui se charge de tout ça aussi. Donc, on constate qu'il y a une amélioration, mais il y a beaucoup à faire. Parce que comme mon ami ici l'a dit, on en constate qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Et ces enfants-là, quand ils sont dans la rue, surtout les filles, par exemple, chez nous à l'ONG, les filles, par exemple, si elles sont dans la rue, elles s'adonnent à la prostitution, l'exploitation, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses à faire.
Mmh. Donc, vous constatez quand même une nette évolution au niveau de l'État, mais sur le terrain, ça reste encore compliqué.
C'est ça.
Est-ce que c'est le même constat avec Onéissa?
Oui, ce que je pourrais dire, à la suite de mes collègues, beaucoup d'activités sont menées, mais on note quand même des insuffisances. Et au nombre de ces insuffisances-là, c'est le manque de moyens. L'État, à travers la DPE, le PPAV, le Programme Protection et Enfants Adolescents Vulnérables, mène beaucoup d'actions. Nous avons des centres d'accueil qui sont créés ça et là, mais je crois que également, il faut continuer à travers la sensibilisation, parce que nous travaillons sur les enfants, mais il faut travailler aussi sur les familles. Mmh. Parce que tout enfant est issu d'une famille. Et alors, les enfants sont pris dans les structures, mais les familles, quand vous rencontrez, il y a vraiment cette précarité, cette pauvreté extrême, de sorte que le parent vous dit, c'est mon enfant, mais j'ai pas les moyens, je fais comment? Alors, quand nous nous tournons vers l'État aussi dit, bon, on a compris, on fera ce qu'on peut, mais les moyens ne suivent pas. Pour dire que la situation des enfants en Côte d'Ivoire n'est pas aussi médiocre. Mm-hmm. Elle est bonne, mais je pense que nous pouvons l'améliorer.
Mm-hmm. On peut encore l'améliorer. Et donc, en parlant donc d'amélioration, qu'est-ce que vos ONG proposent pour améliorer ces conditions-là? Déjà, au plan éducatif, est-ce que vous avez des solutions pour aider les enfants à retourner à l'école? Onchimi?
D'accord. Donc, concernant le berceau de l'enfance, nous, ce qu'on fait, c'est nous reprenons la base avec les jeunes qui n'ont jamais été scolarisés, tels que lecture, écriture et calcul, en fait. Et aussi, nous sensibilisons les jeunes et leur redonnons confiance en eux. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore créé de formation en tant que tel, avoir des salles d'études, tout ça. Mais plus simple, pour l'instant, nous avons des cours d'alphabétisation qui sont adaptés à chaque niveau des jeunes.
Donc, vous avez des enseignants au sein de l'ONG?
Non, des bénévoles qui viennent. Des bénévoles. Voilà, qui viennent, effectivement, okay. Qui viennent donner des cours à ces jeunes-là.
Mm-hmm. Avec Emmanuel, on va parler du niveau sanitaire. Est-ce que vous avez des dispositifs pour les prendre en charge lorsqu'ils viennent, déjà sur le plan psychologique, médical et autres?
Oui, bien sûr. Nous faisons la formation au niveau des règles à adopter en cas de maladies infectieuses. Et il y a la sensibilisation aussi sur le VIH. Il y a des personnes qui viennent dispenser des cours aux jeunes filles, comment il faut se comporter et tout. Et aussi, comme je disais, il y a la sensibilisation au VIH. Et quand les filles sont référées à l'ONG Kawekiva, nous les prenons en charge. Si elles ont été victimes de viol, nous les envoyons à l'hôpital. Et il y a aussi une infirmerie aussi à l'ONG, si elles ne se portent pas bien aussi.
Donc, c'est-à-dire que vous faites des tournées nationales ou seulement à Abidjan pour le moment?
Oui. On fait des tournées à Abidjan. Bon, les réunifications sont les moments de sensibilisation. Quand on part réunifier un enfant à sa famille, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser.
D'accord.
Voilà. Dans ces conditions, nous approchons la population, nous les sensibilisons face à ce fléau-là.
D'accord, voilà, qui est plus clair. Connaissez-vous ça, vous, à votre niveau, quelles sont les différentes prises en charge que vous proposez?
Alors, ce que nous proposons, pour parler du foyer Akwaba, personnellement, nous avons, comme je l'ai dit, l'école de rattrapage. Mm-hmm. Nous avons au sein du foyer Akwaba depuis 1999 une école. Nous avons la classe spéciale jusqu'à la classe de CM1. Et là, nous avons un programme scolaire avec les enfants. Et les enfants de la rue et les enfants de la communauté. Il y a cette fusion-là que nous faisons avec ce groupe d'enfants. Et alors, là-bas, ils apprennent à lire et à écrire et tout. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'IEP, le ministère de l'Éducation nationale, qui reconnaissent le travail que nous faisons. Et lorsque les enfants ont atteint la classe de CM2, alors l'IEP nous met à disposition des places dans les écoles publiques et les enfants sont référés là-bas pour la classe de CM2. Pour vous dire, chaque année, nous avons toujours fait du 100% à l'entrée en 6e. Et pour la petite histoire, depuis que nous existons, filles comme garçons, nos enfants sont parmi les meilleurs, même étant dans les écoles publiques, ils sont parmi les meilleurs. Également, toujours au sein de l'école, nous avons des éducateurs qui sont spécialistes, qui sont formés dans le cadre de l'enseignement. Alors qu'ils prennent ces enfants-là en charge, il y a tout un accompagnement et tout. Également, comme activité, toujours dans le cadre de l'éducation, nous travaillons sur les enfants, mais également nous avons les familles. Donc nous avons institué ce que nous appelons l'école des parents. Et cette école-là, une fois par trimestre, nous réunissons les familles, les parents de nos enfants, pour pouvoir échanger avec eux. Plusieurs thématiques sont débattues avec les parents, le droit des enfants, la communication. Aujourd'hui, pour vous dire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a des parents qui ignorent que les enfants ont des droits. Mm-hmm. Pour eux, ma fille ou mon garçon, je peux le bastonner, j'ai le droit de vous ou de moi sur mon enfant. Pendant les moments de sensibilisation, alors ce message est passé aux parents pour leur dire, mais faites attention, il faut privilégier plutôt la communication, il faut privilégier l'approche, hein, avoir son enfant avec vous que de l'avoir contre vous. Alors, donc, il y a ce travail-là que nous faisons, et également, toujours dans le cadre de l'éducation, comme je l'ai dit tantôt, nous avons la formation professionnelle. Je peux dire que les jeunes qui sont passés chez nous aujourd'hui, qui, depuis 99, qui sont devenus des patrons, qui ont eux-mêmes les ateliers, des couturiers, des ferronniers, aujourd'hui, qui aussi participent à l'éducation, à l'accompagnement des enfants en situation difficile, en fait. Mm-hmm. Et au sein du foyer, nous recevons des enfants qui sont au secondaire. Donc, il y a cette possibilité aussi. Il nous arrive de recevoir des enfants qui ont vraiment la connaissance, qui ont des prérequis pour l'école. Alors, il faut accompagner ces enfants-là. Et alors, l'accompagnement se fait en appui scolaire avec le matériel scolaire. Également, il y a l'appui financier, voilà, au cas par cas. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous parlons de besoins parce que la demande est tellement forte, mais l'offre est très réduite. Mm-hmm. Voilà, madame.
Ouais, on va revenir tout à l'heure aux différents besoins, aux défis que vous rencontrez. Mm. Là, maintenant, on aimerait savoir, avec Onchimi, pour vous qui vous occupez des enfants de la rue, qui sont déjà adolescents la plupart du temps, est-ce que vous cherchez à rencontrer leurs parents, leurs familles, à les réconcilier un peu?
Effectivement, parce que nous, ce que nous faisons l'échange avec les familles. Déjà, nous avons un dossier qui est constitué pour chaque jeune. Et dans le dossier, nous avons l'accord parental. Et il faut dire que c'est pas tous les jeunes dont les parents sont vraiment à Abidjan. Mmh. Il y a d'autres jeunes dont les parents sont à l'intérieur du pays, qu'on a pu aussi retenir en famille. Donc, même s'ils n'ont pas la chance de venir physiquement à l'ONG, on arrive quand même à échanger avec eux au téléphone, à comprendre un peu déjà pourquoi est-ce que l'enfant est dans la rue. Et il y a plusieurs causes, en fait, plusieurs raisons du moins. Il y a d'abord les raisons financières qui n'est pas vraiment quelque chose de majeur par rapport à ça. Déjà, l'enfant même, se sent pas en sécurité. Ou du moins, il y a des familles récomposées qui font que l'enfant n'est plus en sécurité, qui font que les enfants fuguent le plus souvent. Et donc, ce que nous faisons, nous nous rencontrons chaque parent, on échange avec le parent, mais nous, notre priorité, c'est la protection de l'enfant. Donc, quelle que soit l'envie du parent à faire retenir son enfant en famille, tant que l'enfant n'est pas en sécurité, nous, on n'est pas d'accord avec lui pour l'instant.
D'accord.
On essaie aussi de travailler aussi avec aussi l'État, telles que les différentes directions, la DPE tout et tout. Donc, on a aussi la brigade de recherche qui nous accompagne aussi. On a aussi le commissariat du 35e arrondissement avec qui on échange beaucoup. Et ce que nous faisons, c'est de comprendre aussi un peu le comportement de l'enfant. Comprendre aussi comment est-ce qu'on peut aussi amener l'enfant aussi à s'intéresser déjà à son avenir. Parce que les enfants, il faut dire que les enfants n'ont pas vraiment de perspective d'avenir. Tous ceux qu'on a rencontrés, ils n'ont pas de profit de carrière, ils n'ont rien en fait. Ce que nous faisons, c'est de déjà rassembler les enfants et la famille et aussi comprendre aussi pourquoi est-ce que l'enfant fugue. Parce que même si l'enfant doit retenir en famille, que le problème à la racine n'est pas résolu, l'enfant va ressortir à nouveau. Ce que nous faisons, c'est déjà de créer le tissu familial entre l'enfant et la famille.
Et là, vous avez eu des résultats concrets?
Et oui, il faut dire qu'on a déjà retourné une dizaine d'enfants de l'intérieur en famille. Il y a des parents à Abidjan qui viennent régulièrement à la maison, avec qui on échange, avec qui on essaie un peu de comprendre, d'éduquer les parents. Il faut dire que les parents aussi, ils sont un peu désolés, mais les parents aussi ont besoin de beaucoup d'éducation pour que l'enfant soit vraiment accepté. Parce que l'enfant, il faut dire, en vrai, il n'est pas mauvais. Mais quand il manque de confiance, quand il voit que son frère est priorisé que lui, ça fait que l'enfant se sent un peu marginalisé et il préfère être dehors. Au dehors, ses amis l'accueillent facilement. Au dehors, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Sauf qu'il n'a pas un toit. Sinon, à part ça, il confie, mais on n'a pas de toit, on n'a rien, mais on a plus d'argent au dehors qu'à la maison. Au dehors, on a plus de liberté qu'à la maison. Donc, ce que nous faisons, c'est d'abord de faire comprendre aux jeunes qu'au dehors, il n'y a pas d'avenir, qu'à la maison, c'est au moins là que tu pourras au moins avoir un toit pour dormir et aussi trouver aussi une situation idéale aussi pour son avenir. Donc, effectivement, concernant le résultat, on a eu beaucoup de résultats. On a même aussi scolarisé une dizaine de jeunes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et cette année aussi, il y a aussi l'un de nos jeunes aussi qui passe le BEPC. Il pense que merci de m'avoir appelé. Donc, après l'émission, je vais appeler aussi pour voir son résultat, effectivement.
Oui. Donc, c'est-à-dire, votre ONG a donc un toit pour accueillir ses enfants, le temps de les réconcilier avec leurs parents?
Déjà, on a un toit. Maintenant, c'est aussi l'une de nos difficultés. C'est qu'on sollicite le gouvernement, l'État, la mairie, aussi les personnes de bonne volonté à nous aider à pouvoir rénover notre maison. Pour l'instant, on ne peut pas héberger les jeunes parce qu'on n'est pas à mesure, puisque le siège n'est pas rénové. Il n'y a pas de locaux. Et qui parle d'hébergement parle aussi de ressources financières pour pouvoir aussi avoir une équipe d'encadrement pour les jeunes.
Oui.
Ce que nous faisons avec notre maire moyen, on les reçoit en plus 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi, et en plus de 10h à 16h. Il faut dire qu'on est un peu curé de les voir répartis après 16h, mais on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix, on essaie vraiment de faire des plaidoyers auprès de la mairie, du ministère, bon, de vraiment des personnes de bonne volonté pour nous aider vraiment à avoir ces jeunes-là. Parce qu'il faut dire, quand ils sortent le vendredi et reviennent le lundi, tout ce qu'on a eu à faire comme travail, c'est zéro en fait. Ils reviennent sales parce que quand ils viennent le matin, ils prennent la douche, ils font la vaisselle, ils font tout. De 10h à 11h, ils prennent la douche. Et de 11h à midi, ils font des cours d'alphabétisation. À midi, ils prennent un déjeuner jusqu'à 14h. Et après ça, maintenant, on fait plusieurs activités éducatives, culturelles, sensibilisation avec les jeunes. Et aussi, c'est aussi l'occasion pour l'éducatrice d'échanger avec chaque jeune pour vraiment trouver une solution à son problème. Il y a des jeunes qui veulent le retenir à l'école, il y a d'autres qui veulent faire une formation. Mais il faut dire, la réalité fait qu'on reçoit les jeunes de 8 jusqu'à 10 ans. Donc ceux de 8 à 9 ans, 10 ans, même ceux qui ont l'âge inférieur à 15 ou 16 ans, pour eux, on est obligé de les accompagner. On ne peut pas vraiment leur demander de trouver un travail, on est obligé de les accompagner, de encore leur donner le goût de l'école en fait. C'est ce que nous faisons.
Ouais. En tout cas, vous faites beaucoup d'activités et puis ça fait plaisir de voir ça. On espère que vos plaidoyers vont monter jusqu'au gouvernement. On va maintenant passer la parole aussi à Kwe Emmanuel. Vous aussi, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites principalement? Vous qui travaillez avec des jeunes filles, c'est ça? Des filles qui sont généralement dans la rue, elles sont livrées à la prostitution. Est-ce que votre ONG a mis quelque chose en place pour les aider à sortir de là?
Effectivement, comme je le disais un peu plus tôt, notre ONG a mis en place, ils font des cours d'alphabétisation, il y a des cours de couture, des cours de coiffure aussi, tout ça. L'ONG a mis tout ça en place. Il y a des enfants qui sont scolarisés aussi. Voilà, c'est-à-dire, on fait des tests de les occuper au maximum. Il n'est pas que, bon, elles se sentent seules, elles puissent penser à ce qu'elles ont vécu. Donc, c'est un peu tout ça que l'ONG a mis en place.
Est-ce que vous avez des psychologues qui viennent les rencontrer généralement?
Oui, effectivement, des psychologues, même le chalet de protection aussi, on fait des écoutes aussi, surtout des écoutes, parce que c'est à travers les écoutes qu'on arrive à retrouver d'où elles viennent et puis bon, voilà.
Et on sait que pour une fille qui a été accusée par exemple de prostitution, c'est souvent difficile de revenir en famille. Est-ce que vous cherchez à rencontrer leurs parents et tout ça?
Effectivement, quand nous recevons des filles victimes de traite de prostitution, comme vous l'avez dit, on fait l'écoute. Quand on finit de faire l'écoute, on part faire les recherches. Une fois qu'on a trouvé le parent, on fait ce qu'on appelle la médiation. Et voilà, pour pouvoir trouver un cadre du retour facile de l'enfant en famille.
Et vous avez eu des résultats concrets, ça marche?
Ça marche tout le temps, tout le temps.
Donc il y a déjà beaucoup de filles qui sont retournées?
Beaucoup de filles. Si près de 1800 enfants qu'on a reçus depuis sa création, près de 1000 sont déjà retournés. Mais voilà, c'est juste qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore dit, qui ne veulent pas dire d'où elles viennent. Donc ça fait que depuis le bas âge, elles sont là. Juste, il y a d'autres même qui sont arrivées à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui même, elles ont 18 ans, elles sont encore là. Voilà. Donc voilà, il y a la version qu'elles donnent. Aujourd'hui, elles peuvent dire non. Et je viens de Yopougon, on part chercher à Yopougon d'où elles viennent. Après, le lendemain, elles viennent une autre version. Bon. Finalement, je viens de Bengourou, donc c'est difficile. C'est difficile.
Ouais. Et vous collaborez avec la police aussi?
Oui, la police, le ministère de la Femme, Famille, Enfants, surtout. Voilà. Et puis bon, surtout qu'il y a un réseau qui a été créé. Voilà, effectivement, si l'autre ONG a des informations concernant une mineure qui est chez nous, voilà, ça pourra faciliter les choses.
Oui, ça pourra faciliter les choses. Est-ce que vous confirmez cela, M. Kone Issa, grâce au réseau, vous arrivez à aider les enfants?
Oui, nous arrivons. Effectivement, comme je l'ai dit, plus vous êtes unis, plus vous pouvez aller loin. Je crois que à travers ces actions qui ont été citées déjà par mes collègues, effectivement, nous arrivons à aider assez d'enfants. Il faut le dire, le groupe thématique de réseau enfants de la rue, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, à travers les établissements de protection et de remplacement, nous pourrons dire que beaucoup d'actions sont menées. Beaucoup d'enfants sont réinsérés. Il a dit, nous pourrons dire que nous avons pratiquement au moins 75% des enfants accueillis dans nos structures qui sont réunifiés dans leur famille. Mais avant cette réunification, il faut écouter l'enfant, il faut le documenter. Également, il y a l'assistance juridique. Il faut qu'on sache que l'état de Côte d'Ivoire sache que l'enfant est dans notre structure, donc les juges de tutelle sont mis à contribution, la justice, et tout ça, de sorte que l'enfant est en sécurité. De même, les médiations sont menées pour la consolidation des liens familiaux. Donc les familles sont invitées, des échanges sont menés, mieux, des psychologues sont mis à contribution, les médecins pour des enfants qui ont été victimes de traite, de maltraitance, de violence et tout ça. Il y a tout un accompagnement qui est fait avec les enfants. Et à la suite de ça, comme activité essentielle, nous disons la finalité de toutes nos actions, c'est la réunification des enfants dans leur famille. Parce que nous disons que il n'y a pas meilleur endroit d'éducation qu'une famille. Donc, les enfants vont aller en famille. C'est vrai que toutes les familles, souvent, tout n'est pas aussi reluisant. Mais toujours est-il qu'il faut que l'enfant aille en famille. Et nos actions, lorsque l'enfant est réunifié dans sa famille, il y a ce que nous appelons le projet de vie. Et le projet de vie, déjà, il est décliné depuis que l'enfant, il est au sein de l'établissement. J'irai à l'école, tu vas aller en apprentissage, tu vas aller ici. L'accord, la vie de l'enfant est important. Ah, je veux aller à la maison, je ne veux pas aller à la maison. Pourquoi tu ne veux pas aller à la maison? Tout ça, c'est l'écoute. Ce sont les psychologues, ce sont les spécialistes qui vont essayer de mettre l'enfant en confiance et tout pour le rassurer. Parce que pour vous dire, pour un enfant qui a été victime de maltraitance et que vous allez le ramener là où il a été victime, il faut préparer cet enfant-là.
Oui.
De même, pour mieux réussir notre travail, nous nous sommes dit, il faut travailler avec les familles.
Mm-hmm.
Voilà pourquoi, dans nos structures, nous avons des rencontres avec les familles des enfants. Que ça soit le dernier village de la Côte d'Ivoire au niveau du Nord, il y aura une équipe qui ira rencontrer la famille pour savoir ce qui s'est passé. Et de même, informer les parents, les sensibiliser pour leur dire, bah là, certainement votre méthode n'est pas la bonne, il faut revoir votre manière de faire. Alors vous voyez que un travail est mené sur l'enfant au sein de la structure et également sur la famille.
Mm-hmm.
C'est au vu de tout ce travail-là, quand nous voyons que les conditions sont également réunies, alors cet enfant va être réunifié dans sa famille. Après réunification, nous ferons ce que nous appelons le suivi en famille. Ça peut se faire par téléphone, appel téléphonique, et c'est au cas par cas. Pour une fille qui a été victime de violence ou de viol ou de maltraitance, ça voudra dire que l'équipe, en moyenne, une fois par semaine, chaque jour, si c'est sur le district d'Abidjan, il faut qu'une équipe aille. À défaut, il faut appeler ou ça va se faire mensuellement. Et jusqu'à ce que nous voyons que l'enfant ait retrouvé la place qu'il a perdue dans sa famille,
mm-hmm.
en ce moment-là, nous allons nous retirer. Alors, pour dire que c'est un travail de... C'est rapidement expliqué.
Oui.
Mais madame, ce sont vraiment des années.
Mm-hmm.
Il a dit, vous recevez des enfants qui ont 5 ans et qui ont bientôt 10 ans, 15 ans et qui sont en institution. Ces enfants-là, il faut leur donner une identité.
Mm-hmm.
Alors, c'est la lutte contre l'apatridie. Il faut aussi cela pouvoir montrer à travers les preuves, dit à la justice que c'est un enfant qu'on a trouvé sur l'État du Côte d'Ivoire. Alors l'État du Côte d'Ivoire, vu qu'on ne trouve pas la filiation, il faut qu'on puisse lui donner une identité. Parce que nous avons des cas à Kwaba aujourd'hui, des enfants qui sont pratiquement au secondaire, qu'on a trouvé. Après investigation, on n'a pas pu trouver les parents. On a fait des émissions radio, des émissions télé, communication ça et là, on n'a pas trouvé. Dans les commissariats, on n'a pas trouvé. Mais ce qui est intéressant, à travers le ministère de la Justice, avec notre tutelle, le ministère de la Femme, Famille et de l'Enfant, alors il y a cette possibilité-là de permettre à ces enfants-là d'avoir une identité, d'avoir un certificat de naissance, d'avoir un certificat de nationalité, d'avoir même la carte nationale d'identité. Tout ça, c'est depuis déjà le début de l'accueil de l'enfant que tout va se dessiner. Et voilà.
Voilà. Donc, on constate que l'État joue aussi un rôle très important dans tout cela, vous venez de le dire. Grâce aux nouvelles lois qui sont mises en place, c'est possible de donner des extraits à ces enfants-là, même si on ne connaît pas leur origine.
Et effectivement.
Oui, en tout cas, c'est une très bonne avancée à noter.
Effectivement.
Chers auditeurs, si vous venez juste d'arriver, sachez que vous suivez Sujet de discussion. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de l'enfant africain, principalement de la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et nous sommes avec trois ONG aujourd'hui pour nous faire, disons, un état des lieux de tout ce qui se fait, de tout ce qu'elles mènent comme action tous les jours sur le terrain pour aider les enfants, principalement les enfants de la rue. Et aujourd'hui, je suis avec Ange Semi, chargé de projet à l'ONG Le Berceau de l'Enfance. Aussi, nous avons Kone Issa, coordonnateur du réseau EDR, Enfants de la rue, qui est aussi éducateur au foyer à Kwaba. Et puis, notre troisième invité, Kwe Emmanuel, chargé de communication à l'ONG Kavo et Kiva. Et donc, chers invités, nous allons poursuivre notre émission. Nous allons maintenant parler des défis que vous rencontrez. Ça a été assez souvent mentionné, mais c'est important de revenir là-dessus. Tout à l'heure, Unsimi, il a parlé d'avoir un toit pour pouvoir loger les enfants. Est-ce que, à part ça, vous avez d'autres défis que vous rencontrez?
Oui, les défis sont nombreux. Déjà, l'État fait beaucoup. Et aussi l'implication de l'État aussi dans tout ce qui est accompagnement des différentes ONG qui travaillent avec les enfants. Il faut dire que les enfants, c'est une thématique vraiment très, très sensible. Donc, nous avons besoin de vraiment un coup de l'État pour nous aider dans nos différentes activités. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le cadre juridique, tout ce qui est dans le cadre de la sensibilisation, tout ce qui est dans le cadre de la communication, tout ce qui est aussi dans le cadre aussi du financement. Financement dans tout ce qui est activité, financement dans tout ce qui est suivi du jeune. Même quand le jeune retourne en famille, comme l'a dit le coordinateur, il faut faire encore le suivi. Il faudrait que chaque jeune de la rue puisse avoir au moins un programme de vie, puisse être au moins rassuré qu'il a au moins un avenir meilleur. Il faut dire que 90% de nos jeunes de la rue que nous accueillons n'ont pas de programme, n'ont pas de projet de vie. Pour ces jeunes-là, il faut vraiment une formation. Il faut dire qu'aujourd'hui, les cours du soir, à part nos ONG, les cours du soir naturellement sont payants. Et les jeunes n'ont pas, déjà, n'ont même pas le goût de se faire former. Et donc, du moment où encore c'est payant, ça fait que ça limite, en fait. Les jeunes sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, faudrait au moins que l'État vraiment puisse accompagner véritablement les ONG qui travaillent sur cette thématique. Nous avons besoin de financement, nous avons besoin aussi des espaces aussi pour nous faire entendre, nous avons besoin aussi des autorisations, de tout ce qui est autorité communale, autorité aussi de l'État aussi, et aussi nos différents aussi ministères sous tutelle en fait. Donc pour résumer, au niveau de nos besoins, c'est le besoin de financement, le besoin aussi d'accompagnement. Si on peut avoir par moment des personnes détachées de l'État qui viennent au moins faire des formations pour les renforcements des capacités du personnel, faire au moins aussi des suivis avec nous, pour nous aider sur des thématiques que nous ne maîtrisons pas. Comme je disais, on travaille beaucoup avec la brigade des mineurs, le commissariat. Il y a aussi même aussi tout ce qui est juridique. Effectivement, l'État a lancé une action d'audience foraine pour que les jeunes aient au moins tout ce qui est extrait de naissance. Mais déjà, pour que le jeune puisse avoir au moins l'extrait de naissance, il faudrait des documents prérequis. Mais le parent même n'existe pas. Le parent même n'est même pas prêt à au moins fournir, ne serait-ce que le carnet de naissance de l'enfant. Bon, sans ça, effectivement, nous sommes bloqués pour pouvoir au moins établir un extrait de naissance pour le jeune. Bon, là, ça fait que si, sur ce volet, si l'État peut au moins nous donner avec au moins l'accord de l'autorité pour dire, bon d'accord, comme vous êtes une ONG qui accompagne les enfants, donc vous avez au moins un décret qui vous permet de moins de pouvoir établir un extrait de naissance aussi pour l'enfant. Donc ce sont ces différentes actions que l'État vraiment peut aussi mener pour aider les ONG à vraiment donner goût à la vie à ces différents enfants de la rue.
D'accord. Merci beaucoup, Sémi.
Merci beaucoup.
Nous allons passer la parole à Koué Emmanuel. Vous, à votre niveau, quels sont les défis que vous rencontrez généralement?
Chez nous, à l'ONG Kawekiva, les défis que nous rencontrons, c'est au niveau de la protection des enfants et au niveau de la sensibilisation. Par exemple, aujourd'hui, on a un cadre où s'exprimer, où parler de l'enfant. Habituellement, on n'a pas ça. Le cadre où on trouve pour faire la sensibilisation, c'est lorsqu'on va faire les réunifications et tout, et c'est pas suffisant. Et surtout aussi, l'État aussi doit aussi allouer des budgets aux organisations et aux ONG qui sont là pour la protection des enfants. Au niveau de l'administration, il y a les efforts qui ont été faits, par exemple au niveau de la justice, pour faire facilement l'extrait d'actes de naissance des enfants, et ça c'est déjà bien. Mon ami là, l'a si bien dit, il a déjà tout dit, hein. Voilà, c'est à peu près les mêmes défis que nous rencontrons à l'ONG.
Merci beaucoup. Koné Issa, c'est pareil chez vous?
Oui, c'est pareil chez nous. Et moi, je me ferai le porte-parole de notre groupe thématique d'instructeurs. Il faut dire que le réseau, c'est pratiquement plus de 8 membres. Et notre premier défi, c'est le défi financier. Cette structure-là fonctionne sur fonds propres. Ces fonds-là sont recueillis à travers des dons qui sont faits ça et là, des personnes de bonne volonté qui donnent un peu. De même, on a aussi notre principal bailleur de fonds, c'est l'extérieur. Et aujourd'hui, l'Europe, avec tout ce qu'on a comme difficulté, alors nous disent, écoutez, il faudra au niveau local chercher le financement. Alors lorsque vous allez vers l'État dit, bon, on a compris, mais on n'a pas, mais lorsque ça ira, on va vous faire signe. Pendant ce temps, les enfants, ils vont manger, les enfants, il y a l'aspect santé. C'est coûteux. Vous avez le personnel éducatif qu'il faut rémunérer. Vous avez les factures d'eau. Et donc, vraiment, tout ça, ça fait que c'est coûteux. La prise en charge d'un enfant dans un établissement, dans un centre éducatif, c'est coûteux. Pour Akwa Ba, depuis 1999, des personnes nous ont aidés, mais aujourd'hui, nous sommes un peu essoufflés. Il faut le dire, nous sommes un peu essoufflés. On veut continuer. On a encore l'énergie pour continuer, mais les moyens font défaut. C'est en cela que notre appel aujourd'hui, c'est l'appui de l'État. Je peux pas dire que l'État ne nous vient pas en aide. Même le fait même d'exercer sur le territoire ivoirien, c'est déjà un appui. Mais l'appui financier, vraiment, c'est vraiment notre souhait. De même, il y a l'aspect santé. Les enfants dans les centres, quand ils sont malades, vous dites qu'avec la DPE, le ministère déjà, avec l'hôpital mère-enfant, il y a ces possibilités-là. Mais pour les petits bobos, lorsque vous allez dans les centres de santé, il faut payer. Alors, si on peut nous faciliter cela, ce serait bien. De même, il y a l'assistance juridique, on l'a dit hein, tout à l'heure, les essais de naissance, les certificats de nationalité, et l'État nous facilite cela. Mais il y a des cas où il faut faire d'abord les documents et des parents, ensuite pour faire pour les enfants. Ce qui est également comme défi, lorsque vous allez avec un enfant, une fille à Boaké ou bien un enfant à Korogo ou bien à Bengourou, c'est de l'argent. Alors, pour la localisation des parents, la recherche des familles, c'est coûteux.
lorsque vous y allez, et alors, c'est sous fond propre que nous faisons ces recherches-là. C'est vrai que lorsque nous arrivons dans les villes, les complexes socio-éducatifs, les centres sociaux sont mis à contribution, mais tout ça, c'est de l'argent. Alors, pour dire que le défi financier pour nous aujourd'hui est vraiment d'actualité. C'est vraiment notre cri de cœur.
Donc, face à tous ces défis, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message pour aider à améliorer la situation de l'enfant? On n'oublie pas que c'est pour ce thème-là que nous sommes là, la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire, pour pouvoir aider vraiment à changer les choses. Quel message vous pouvez faire passer peut-être aux parents, même aux familles ou simplement à la société? Que pensez-vous qu'on peut leur dire pour aider les enfants à être mieux aujourd'hui, Ange?
D'accord. Le conseil que moi je peux donner... Déjà, le conseil, c'est au niveau des parents surtout. Des parents surtout, c'est de vraiment prendre, interagir avec tous les enfants, considérer les enfants au même titre que tout le monde dans la maison. Ne pas faire subir à l'enfant ce qu'on a vécu dans le passé. C'est-à-dire, ne pas obliger l'enfant à aller contre ses ambitions, mais en même temps aussi, le limiter aussi quand il est en danger. Et aussi, trouver aussi des moments aussi d'échange avec l'enfant. Et trouver du temps, effectivement, pour son enfant. Ça, c'est très important. Et pour ces familles recomposées, je dirais c'est plus de trouver du temps. Le temps du soir, le temps d'échanger avec le parent, le temps aussi d'écouter l'enfant. L'enfant se sent pas écouté. Donc, il faut vraiment que les parents aussi essaient d'écouter l'enfant.
Merci beaucoup, Ange Semi. Koué Emmanuel, vous, à votre niveau, quel message souhaitez-vous faire passer pour changer la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire?
Nous, notre message au niveau de l'ONG Kawekiva vis-à-vis des parents, c'est de leur dire la place des enfants, c'est à la maison et à l'école. Voilà. Et aussi d'éviter le confiage des enfants. C'est tout ça qui fait que les enfants sont victimes de viols, d'exploitation. Aujourd'hui, nos parents à l'intérieur, au village, ne connaissent pas quelqu'un. Ils viennent pour des funérailles, par exemple, au village. Ah, je te confie mon enfant, Abidjan, va avec mon enfant, il faut scolariser mon enfant. Ici, quand la personne arrive avec l'enfant, c'est fini. La personne exploite l'enfant, c'est l'enfant qui fait les travaux à la maison. Au lieu de scolariser l'enfant, c'est l'enfant qui fait tous ses travaux. Et c'est tout ça aussi qui crée les conditions de violence sexuelle, le confiage aussi. C'est de vraiment dire aux parents d'arrêter de confier les enfants. La place des enfants, c'est auprès d'eux-mêmes. L'éducation des enfants, c'est à eux de les faire. Et l'État va les accompagner dans cela. Et au niveau de l'État, c'est de renforcer le cadre légal et institutionnel, aussi d'augmenter les ressources allouées aux organisations qui sont là pour la protection des enfants, telles que les ONG et tout. C'est un peu ça notre message.
Merci beaucoup. Koné Issa, votre message?
Ok. Alors, toujours, je voulais remercier déjà mes collègues qui ont dit de bonnes choses. Moi, je voudrais mettre l'accent également, en termes d'attitude, sur la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui quitte la maison pour la rue, nous disons que quelque part, quelque chose n'a pas marché à la maison. Certainement, le parent ne s'y rend pas compte, mais je crois que si le parent il est responsable, je dois savoir où pas jouer mon fils, avec qui mon enfant passe la journée, comment il travaille à l'école. Il y a tout un accompagnement. Et je crois que notre premier message, vraiment, c'est la responsabilité des parents. Parce que souvent, nous rencontrons des cas où on voit que les parents ont totalement démissionné. Ils démissionnent et ils disent non, l'enfant, il est comme si il est ceci, cela. Alors donc, notre premier credo, c'est vraiment que les parents soient plus responsables vis-à-vis de leurs enfants. Et dans cette responsabilité, c'est vraiment mettre un accent sur la communication. Demandez aux parents de communiquer avec les enfants. Souvent, vous verrez dans des familles, le parent, il passe plus de temps au gré du quartier, il passe plus de temps devant le poste téléviseur, il passe plus de temps dehors avec ses amis en train de prendre un pot, que de communiquer avec son enfant. Pourtant, lorsque vous communiquez avec votre fille, lorsque vous communiquez avec votre enfant, ça va, ça ne va pas, à l'école, au quartier, tout ça, vous verrez que l'enfant, tout de suite, s'il y a un souci, il va se confier à vous. Je viens du boulot, je n'ai pas vu mon fils, il faut que je sache où mon fils il part, avec qui il joue, quand et comment. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'éducation aujourd'hui se fait un peu partout. Vous avez les réseaux sociaux. Quand les enfants passent la journée avec le téléphone, si vous ne communiquez pas avec votre enfant, c'est les réseaux sociaux qui vont communiquer avec votre enfant. Et l'enfant va apprendre les mauvaises manières sur les réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas votre enfant en famille, il lui apprend une autre éducation dehors. Donc pour moi, la communication
Les parents-enfants, c'est vraiment important. De même, il faut que les parents aient le temps pour les enfants, les temps de qualité. Nous savons qu'à Abidjan, le monde aujourd'hui, tout le monde matin, chacun court pour aller au travail, du lundi au vendredi, samedi, on va au mariage, vendredi soir, on va au funérailles, dimanche, on va à l'église, lundi matin, on reprend. Durant toute cette semaine, on n'a pas communiqué avec notre enfant. Mais nous disons, si nous pouvons faire le sacrifice d'un culte, d'un funérailles, pour communiquer avec notre enfant, 1 heure, 2 heures, c'est bon. Ça aussi, ça part aussi de la responsabilité des parents. Trouver des temps de qualité pour nos enfants. Ne pas seulement attendre quand c'est mauvais pour donner le conseil aux enfants. Quand c'est bon, il faut le féliciter. Tout à l'heure, Sémi a dit, il va se renseigner pour voir est-ce que le candidat a aidé au PPC. C'est l'occasion avec les parents de pouvoir communiquer avec les enfants. Les féliciter. Nous avons dans les quartiers des fumoirs qui sont à proximité des maisons. Mais ces jeunes qui sont dans les fumoirs là, qui ils envoient? C'est les enfants des communautés là. Mais il faut que la maman que je suis, le père que je puisse dire à mon fils, écoute, je préfère que tu ailles jouer avec les autres au football ou bien que tu ailles là-bas pour étudier que d'aller avec... Alors, lorsqu'on ne communique pas, souvent les parents sont là, ils voient la chose se faire, et quand c'est gâté maintenant, ah mon enfant, mais tout ça a commencé quelque part. Dire aux parents que la famille est importante. La majeure partie des enfants que nous avons dans les établissements de protection des remplacements sont issus de familles séparées, les familles monoparentales, les familles recomposées. Donc, lorsque vous et moi faisons un enfant, qu'on sache que si nous sommes ensemble, ça protège notre enfant. Mais lorsque nous prenons nos intérêts égaux, je dis, non, lui, il n'arrange pas, moi, celle-là ne m'arrange pas, je m'avais recommencé. Mais rien ne nous dit que celle avec qui vous recommencez, mais celui avec qui vous recommencez va s'occuper de l'enfant. Je vous dis, on n'a pas encore les statistiques. Mais si vous allez dans les structures, ils sont issus de familles recomposées. Les parents sont séparés. Ma maman s'est remariée, mon père s'est remarié, je suis orphelin. Ce sont ceux-là que vous trouvez beaucoup dans les carrefours parce que il n'y a personne pour les écouter, il n'y a personne pour communiquer avec eux. Tout ça, c'est en cela que nous parlons de responsabilité. Lorsque vous avez un enfant dans un centre, que vous allez vers les parents, vous leur demandez de venir, beaucoup ne viendront pas. Hein. Il faut aller 2-3 fois. Mieux, il faut menacer même. C'est-à-dire, je sais que mon enfant se trouve ici à Radio La Paix. Ah, mais je connais, il faut venir dans votre garçon là. Ah, d'accord, j'ai compris, je viens. Vous venez quand? Ah, je sais pas, quand j'aurai le transport, je vais venir. Ah, cet enfant-là même, je n'en veux pas. Mais non! C'est en cela qu'on a institué avec le ministère de la Famille et la direction de la Famille des sensibilisations. Il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos églises, pour dire aux parents, attention! Dans le cadre de la prévention, parce que l'autre va dire, bon, moi, mon enfant n'est pas dans la rue, c'est pas mon affaire. Mais je ne suis pas à l'abri, hein. J'ai des enfants, ça peut m'arriver moi aussi. Mais sur le parent que je suis, j'ai été sensibilisé, j'ai quand même quelques rudiments pour dire, voilà, pour que je communique avec mon enfant, ça évite à mon enfant d'aller dans la rue. Voilà, madame.
Merci beaucoup. Vous avez pu entendre, chers auditeurs, tout ce que ces ONG-là font pour les enfants et aussi tout ce dont elles ont besoin justement pour continuer à sensibiliser et puis à aider à améliorer la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire. Changer la réalité des enfants, c'est l'affaire de tous, des autorités, des parents, des médias, en tout cas de chaque citoyen. Et je pense que c'est l'essentiel de ce que nous devons retenir aujourd'hui dans cette émission. Chers invités, merci d'être venus dans nos locaux. Je rappelle que nous étions avec Ange Sémi, chargé de projet à l'ONG Le Berceau de l'Enfance. Merci à vous.
Merci.
Kone Issa, coordonnateur du réseau EDR Enfants de la Rue, éducateur au foyer à Kwaba, merci beaucoup.
Merci de nous avoir accueillis.
Kwe Emmanuel, chargé de communication à l'ONG Kavo et Kiva, merci aussi d'être venu.
Merci et merci pour cette lucarne que vous nous donnez.
Amis auditeurs, à vous aussi, on dit merci d'être resté avec nous. Merci de nous avoir suivis. Sujet de discussion, c'est terminé pour aujourd'hui.
C'était Sujet de discussion.